I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous, je suis de retour, les vacances c'est fini pour moi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau C'est ça qu'on aime et ravie d'accueillir mes deux invités du jour. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Avant ça, si vous ne savez pas encore ce que c'est ça qu'on aime, c'est une émission où on invite des gens passionnés à parler donc de leur passion, plus ou moins what the fuck. Et ce soir, c'est pas du tout what the fuck, c'est très terre à terre. On va parler de véganisme et d'engagement étudiant. Comme toujours, vous pouvez réagir sur le chat YouTube, mais aussi dans les commentaires Facebook et avec le hashtag MadanLive sur Twitter. Et si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous mettre un avis et une note sur iTunes en forme d'étoile, on sera très contents. Et vous pouvez aussi commenter sur SoundCloud. Bref, vous avez moult moyens d'interagir avec nous. Maintenant que tout ça est dit, on peut entrer dans le vif du sujet et déjà présenter mes deux invités de qualité. Je suis donc avec Blaise et Mathilde. Comment est-ce que ça va ?
Wouh !
Ok. Blaise, je vais te demander de parler un tout petit peu plus dans ton micro.
Ça va, voilà.
Donc Blaise, peut-être que si vous suivez déjà Mademoiselle, vous avez peut-être vu passer son visage dans les parages, puisqu'on a parlé de ta chaîne YouTube qui s'appelle La Chronique. Et d'ailleurs, tu as sorti une vidéo aujourd'hui sur le consentement. Formidable. Tu parles donc d'éducation sexuelle. C'est très cool. Je vous conseille vivement d'aller sur la chaîne de Blaise que je vais tout de suite mettre en lien sur le chat YouTube. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et puis aussi, tu étais là à la rencontre avec ce cher Martin Vinclair.
Exactement.
Et oui, donc tu faisais partie des lectrices qui posaient des questions à Martin Vinclair, qui est donc un gynécologue qui a une pensée, comment dire, très progressiste et qui a du mal à faire entendre... qui fait très bien entendre sa voix, mais auprès de ses collègues, c'est un peu moins facile. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est encore en replay, en podcast sur Mademoiselle. Et donc toi, ce soir, tu vas nous parler de véganisme.
Exactement.
Et le chat a décidé que c'était toi qui commençais l'émission. Voilà, je te le dis.
Je
ne
sais pas si je dois dire merci au chat, mais
le chat est souverain. L'autre sujet de ce soir, c'est donc l'engagement étudiant, un concept plus ou moins obscur, hein, ça dépend où vous vous placez sur le spectre. Mais Mathilde, tu vas nous éclairer sur le sujet, bienvenue.
Merci.
Tu es lectrice de Mademoiselle et tu étais là en juin à la dernière grosse stuff. Tu es venue d'Avignon.
Oui,
carrément.
J'ai fait l'aller-retour.
Tout le monde était là. Mais quoi ? Tu as fait ça juste pour chanter fort et faux avec nous ? Mais c'est formidable. Et donc, toi, tu es élue à la FAGE, donc, qui est la Fédération des Associations Générales Étudiantes.
C'est ça.
Et tu es justement venue nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Parce que comme ça, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que la Fédération, tout ça ? On y revient tout à l'heure. Ok. Alors, donc, déjà, merci à toutes les deux d'être venues ce soir. Et merci à Mathilde, parce qu'en vrai, t'habites à Avignon. Et là, c'était la semaine de chance, parce qu'elle était à Paris, justement, grâce à la FAGE. Donc, merci la FAGE. Écoutez, voilà, je vous remercie grandement. On va donc entrer dans le vif du sujet, Blaise. Donc, toi, tu es végane. Alors, première question, qu'est-ce que c'est être végane ?
Alors, le véganisme, c'est un mouvement social et politique qui consiste à ne pas participer, à ne pas consommer des produits d'origine animale et issus de l'exploitation animale, grosso modo. Donc, on connaît le végétalisme, où là, ça va être pas de viande, pas d'œufs, pas de lait, pas de produits animaux, donc pas de miel non plus. Mais le véganisme, c'est dans tous les aspects de la vie, donc ça va être pas de produits qui ont été testés sur les animaux, dans les cosmétiques par exemple, et ça va être également pas de loisirs avec des animaux, donc équitation, zoo... aquarium, ce genre de choses.
Déjà, c'est
et
pas mal.
Dans les vêtements, par exemple, voilà, laine, cuir, soie, ce genre de choses, tous les produits issus de l'exploitation animale ne seront pas utilisés.
Ok. Donc, c'est un truc qui est assez, je pense, mal connu. En fait, c'est le vegan, ça parle à plein de gens. C'est un mot que tout le monde entend parce que c'est, entre guillemets, à la mode, même si... Comment dire, ce n'est pas vraiment une mode, c'est un mode de pensée, donc bon, voilà, c'est un peu compliqué.
On en parle.
Donc bref, on en entend parler pas mal en ce moment, et donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à comprendre exactement ce que c'est, parce que pour eux, moi par exemple, je suis végétarienne, et donc quand je dis que je suis végétarienne, les gens sont là, ah mais donc tu peux pas manger d'œufs et de lait et machin, je suis là, non, alors ça c'est végétalien, Et donc, vegan, c'est encore un truc au-dessus. Et enfin, dans le truc de la condition animale, tu vois, pour eux, c'est genre, ouais, c'est comment ça marche exactement. Donc toi, combien de temps ça fait que t'es devenue vegan ?
Je suis vegan depuis 2 ans, à peu près. Et avant ça, j'étais végétarienne pendant quelques mois. Et j'ai une petite phase végétarien qui mange du poisson. Voilà. Ouais. Mais du coup, ça fait 2 ans que je suis vegan.
Waouh, 2 ans. Et donc, comment est-ce que tu en es venue à devenir végane ? C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu t'es dit « Ok, c'est bon, j'ai hâte de manger du poisson et des produits animaux
». Je pense que c'était progressif. J'étais vraiment en autruche pendant des années, parce que depuis des années, j'avais plus envie, en fait. J'y pensais beaucoup, ça me faisait beaucoup
culpabiliser.
Ouais. De manger de la viande, de consommer des produits animaux, et j'essayais de pas y penser au maximum. Je mettais ça au fond de ma tête, je voulais pas que ça occupe mon espace de pensée vraiment, donc je savais que ça me plaisait pas, mais en même temps j'avais pas envie de me renseigner parce que je savais que les informations que j'aurais me plairaient pas, et oui. Le fait est que bon, pas plus quoi.
Oui, tu savais que tu faisais l'autruche en fait, c'est ça?
Je pense que j'en avais pas conscience vraiment sur le moment même, mais je savais que ça me touchait déjà énormément, donc j'avais déjà la culpabilité. Mais jusqu'au moment où j'ai plus pu, en fait. J'ai pas eu le courage de me renseigner par moi-même et d'avoir ce changement radical. Genre non, à un moment, j'ai juste plus pu...
Faire semblant.
Ouais.
Ouais, ok.
C'était un blocage, quoi.
Et comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que t'as... Qu'est-ce qui a été la première étape ? Parce que tu dis que t'avais fait ça au fur et à mesure. Ça a été quoi la première étape ? D'arrêter de manger, de consommer des produits animaux et au fur et à mesure de devenir cruelty-free, donc cruelty-free, n'importe quoi, cruelty-free, donc qui est donc de ne pas consommer de cosmétiques, notamment testés sur les animaux. C'était quoi le premier truc qui t'a fait déclic ?
Moi, le premier, je pense que c'est la nourriture, parce que c'est vrai que c'est le truc qu'on a en face de nous et qu'on met dans son corps, donc peut-être on a une relation plus intime qu'avec d'autres produits du quotidien. Du coup, ouais, une fois que la viande, les produits laitiers, eux, tout ça, c'était arrêté, le reste est venu en fait au moment où j'ai dû racheter des produits. Techniquement, je pense pas avoir jeté mes produits oui. D'un coup, quoi. Pas le budget non plus, mais au moment de racheter, voilà, au moment de racheter mon gel douche, au moment de racheter tout ça, je me suis dit genre, ah mais en fait non, j'ai pas envie non plus de cautionner ça. Et du coup, c'est là où j'ai redécouvert tout un autre monde de consommation, ça se dit ?
Oui, oui. Oui, tout à fait.
Qui était tout à fait à part.
Okay. Mathilde, est-ce que t'es un peu, comment on dit tu connais un peu le véganisme ou c'est un peu un
truc ? Je connais très rapidement, enfin du peu que j'ai pu en entendre parler parce que justement on en parle pas mal en ce moment.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est quelque chose, je suis très curieuse et ne serait-ce qu'être végétalienne, mais ça c'est pareil comme je disais tout à l'heure, je sais pas trop dans l'échelle ce qui est quoi, mais ça me plairait. J'aimerais pouvoir mener ce combat et en même temps c'est quelque chose dont je me sens complètement incapable. Ne serait-ce qu'au niveau de la nourriture, j'aime bien manger de la viande, du poisson, des choses comme ça. Et du coup, comment tu fais, et même au quotidien, je me dis, s'il y a les vêtements et tout ça, comment tu y arrives ? Et en termes de budget aussi, tu disais que c'est compliqué. Enfin, les animaux, ils sont partout. Donc,
Ouais, ouais. du coup... Je vais commencer par la fin parce que c'est la question qui me reste en termes de budget. Moi, j'ai pas du tout un grand budget. Du coup, le fait est que si je voulais consommer comme je consommais avant, c'est-à-dire en mangeant donc tout ce qui est simili viande, etc., à base de tofu, seitan, etc., je pourrais pas rentrer dans mon budget parce que le fait est que ces simili produits sont chers. Mais pour être végétalien, c'est pas du tout nécessaire, ni pour être en bonne santé, ni quoi que ce soit. Du coup, moi, je consomme vraiment comme je consommais avant pour ce qui est de la nourriture, seulement sans tous ces produits-là. Du coup, en fait, je fais des économies assez énormes parce que t'enlèves la viande, le poisson, les produits laitiers, tu fais vite des économies. Du coup, à base de légumes, de légumineuses, de céréales, ce genre de choses, en réapprendre à cuisiner aussi parce que le fait est que j'adore manger. donc moi, ça a été un peu une frustration au début de devoir réapprendre à cuisiner, tout ça, de... pu considérer les légumes, les légumineuses, tout ça comme des choses à côté de la viande, mais comme un truc à part entière. Et ça a été assez fun, en fait. Et du coup, aujourd'hui, je suis plus du tout frustrée, mais ça m'a peut-être duré genre 2 mois de réapprendre, se réhabituer. Et du coup, en termes de budget, non, nickel. Je fais des économies assez énormes sur la nourriture, sur les produits cosmétiques aussi, parce que de plus pouvoir, les animaux sont partout et ils sont utilisés exploité pour énormément de produits, bah, du coup, ça t'oblige à réfléchir à ce que tu achètes. Le fait est que maintenant, j'ai plus une crème pour tout. Maintenant, je fais mes produits moi-même. Donc, en termes d'économie aussi, c'est assez énorme. Et du coup, bah, j'ai la même crème pour le visage, pour le corps, pour les cheveux à l'époque. parce que voilà, du coup, ça t'oblige à te réadapter. Et c'est vrai que maintenant, c'est vrai que j'entends souvent cette histoire de sous. Et étant dedans, j'ai l'impression que c'est un faux problème pour quelqu'un voilà, qui a mon niveau de vie, c'est-à-dire très modeste. Voilà, j'étais en service civique, les vrais savent, c'est pas la folie. Donc voilà, mais en effet, je dirais pas du tout ça, par exemple, à une personne seule avec deux enfants. Évidemment qu'en achetant des produits tout préparés, avec du fromage dedans, etc., c'est beaucoup moins cher qu'en faisant les choses soi-même. Du coup, moi, à mon niveau, c'était possible. Du coup, je l'ai fait, mais je conçois très bien que ce soit pas possible à tous les niveaux, quoi.
Ok. Et c'est souvent vu, j'ai l'impression que c'est souvent vu comme une opinion radicale, genre c'est les véganes contre les carnistes et c'est la bataille infinie qui ne s'arrête jamais. Et comment ça s'est passé, toi, auprès de tes amis et de tes proches, quand t'as dit que tu étais devenue végane? Il faut que je reprenne à parler, apparemment j'ai perdu la notion pendant mes vacances. Ça va bien se passer, donc comment ça s'est passé auprès de tes proches?
Assez nickel, étrangement, parce que j'appréhendais un peu, parce que j'aime beaucoup manger, mes amis aiment beaucoup manger, tout le monde aime beaucoup manger. Et du coup, bon, j'ai eu toutes les mêmes réactions, du genre « Écoute, c'est très bien pour toi, mais moi ça m'arrivera jamais.
Ouais. »
Aujourd'hui, ils le sont quasiment tous. Voilà. Et surtout, la question qui vient souvent, mais du coup, comment à faire quand t'es invité chez des gens, tu vas plus du tout pouvoir manger à l'extérieur, ce genre de choses.
Ouais.
J'ai tapé sur la table. Eh bien, en fait, non, je sais pas si mes potes sont sympas ou pas, mais du coup, j'ai toujours à manger quand je suis invitée. Ou quand ils peuvent pas, je ramène ma bouffe et je partage. Car ouais. Mais non, j'ai pas vraiment...
Oui, parce que tout le monde peut manger vegan, au contraire de l'inverse.
Oui, c'est ça.
Au contraire de l'inverse. Décidément, j'ai décidé de faire des phrases formidables ce soir. C'est cadeau.
Faut noter les perles.
Et c'est quoi les remarques les plus courantes qu'il y a autour du véganisme?
Les protéines.
Ah,
mais
les
où
protéines.
Où tu trouves tes protéines? Et c'est mais génial. Enfin, personne n'a déjà rencontré quelqu'un qui était en carence de protéines. Genre, ça n'existe pas. Enfin, si, pour quelqu'un de sous-nourri. Mais si tu manges à ta faim, il n'y a aucune raison que tu sois en carence de protéines. Demandez-moi comment je chope mon fer. Demandez-moi comment je chope ma B12. Mais oui. Le protéine, c'est un faux problème. Donc, on me pose souvent cette question.
Ouais.
Pour savoir si je suis en bonne santé, ce genre de choses.
Et justement, les fameuses carences.
Ouais.
Ça c'est un truc que je pense qui fait flipper plein de gens. Genre moi mes parents j'ai dit que j'étais végétarienne, ils ont commencé à flipper, j'étais là vraiment ça va, je suis végétarienne, je mange encore des œufs et tout, enfin on est loin des carences, tout va bien. Et, et du coup il y a un truc qui est assez compliqué, j'ai l'impression, c'est que les professionnels de santé sont très peu comment dire,
formés.
Ouais, formés au véganisme et à savoir comment ça fonctionne. Et en fait, j'ai l'impression que dans leur tête, c'est en fait, le système actuel, c'est on est omnivore, donc mangeons tout ce qu'il y a à manger et voilà. Et si tu fais pas comme ça, il y a des risques pour ta santé hyper graves, machin. Et du coup, vers quel genre de personne tu peux te tourner pour avoir des vraies réponses à qu'est-ce que c'est le véganisme et comment ça marche et comment ne pas avoir de carence, parce que c'est peu probable que ça arrive, mais par exemple, la B12, c'est un truc important, j'ai l'impression. Alors que moi, j'y connais rien du tout. Hein, mais la vitamine B12, c'est le truc. Non, mais ça se trouve que dans la viande, comment vous faites les véganes, machin. Alors, explique-nous comment ça marche.
Alors, déjà, pour la première question, si en effet, les personnes se posent des questions ou trouver des ressources fiables sur le véganisme, et désolé, tout le monde, allez sur le site de l'OMS. Quoi. Et l'OMS a publié une étude comme quoi c'était tout à fait OK pour tous les âges de la vie d'avoir un régime végane. Qu'on soit un nourrisson, une personne âgée, un sportif, personne enceinte, il n'y a pas de souci. Donc voilà, allez sur le site de l'OMS, c'est plutôt cool.
Donc l'OMS, c'est l'organisme mondial,
Mondiale de la santé. Organisme, peut-être. Et la vitamine B12. Alors la vitamine B12 qui ne se trouve pas dans un régime végétalien, c'est vrai. C'est pour ça que le véganisme n'était pas possible en fait avant la découverte de la vitamine B12 dans les années, je vais forcément dire une bêtise, mais je crois que c'est dans les années 60.
Mmh.
Donc c'est vrai que le végétalisme était impossible avant, il y a eu des essais, les personnes sont mortes, le faites pas chez vous. car la vitamine B12 est en effet essentielle à l'être humain, la vitamine B12 qui aujourd'hui se retrouve dans la viande. Sauf que la vitamine B12 se retrouve dans la viande en supplément alimentaire, en fait. On donne aux animaux. Alors, c'est un peu compliqué, je ne suis pas trop chimiste. Okay. Mais grosso modo, dans les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux aujourd'hui, ils ne peuvent plus la produire. C'est quelque chose qui se fait dans les intestins, bref. Et nous-mêmes, on ne la produit pas. Du coup, on donne des granulés supplémentés, des médicaments aux animaux qui se retrouvent dans la viande, qui se retrouvent dans notre alimentation, dans notre corps. Et du coup, bah, en étant végane, il suffit juste de la prendre soi-même, quoi.
Ouais, tu peux faire le chemin direct sans passer par la case animale.
Exactement. Et ça, c'est souvent voilà, quelque chose qui me dit, mais c'est pas naturel, vu que du coup, c'est supplémenté. Mais les animaux sont supplémentés.
Ouais, mais du coup, ça, enfin, alors c'est peut-être une question trop technique, mais la B12, d'où ils la sortent ?
Mais c'est une excellente question. Je suis pas chimiste, du coup, c'est même pas une histoire de chimie. Du coup, j'ai compris grosso modo que c'était une histoire de manger son caca. Mmh. Donc, un stade qu'on a vite fait dépasser. Non, mais je sais, tu vois. Et plus ou moins quelque chose qu'ils sont plus capables de faire les animaux
ouais.
De, bah, issus de.
Bah de, oui, de comme ils sont élevés, oui, ils sont plus dans les prés, ils peuvent plus genre, manger l'herbe qui a été qui a poussé grâce à leur caca.
Oui.
C'est ça l'idée.
Peut-être, mais moi du coup j'ai visualisé manger leur caca, mais tu as probablement raison, ça me paraît vachement plus crédible.
Parce que tu vois, genre l'engrais normalement c'est aussi, il y a un truc, hein. Je pense qu'il y a un truc avec ça.
Le chat, aidez-nous.
En effet, il y a sur le chat, alors à vérifier si vous nous écoutez en podcast plus tard, n'hésitez pas à commenter, à nous préciser des choses si vous savez des choses sur la vitamine B12. Mais il y a des gens sur les chats qui disent ça vient des excréments, et il y a Hugo qui dit ce sont des champignons en culture, il me semble. Donc voilà, donc nous ne sommes pas sûrs, mais il y a un truc avec une bactérie, je pense, ou un.
Oui, ça doit être plus une bactérie. Voilà. Ouais, j'aurais dû commencer par là, désolé.
Ah, bah, c'est une bactérie. Voilà, très bien. Est-ce que en termes de cosmétiques, donc tu disais que tu fais toi-même ta crème, par exemple, où est-ce que tu vas chercher les recettes ? Comment ça se passe pour toi ? En fait, c'est. Je pense que c'est ça le truc principal, c'est que nous, on a tous l'habitude d'aller acheter nos choses. Et toi, t'es passé à un mode de, en fait, je vais faire les trucs. Et donc, tu m'as dit, la dernière fois, tu fais ta lessive, tu fais tes cosmétiques.
Tu en as déjà parlé ?
Oui, tu m'en as parlé au téléphone. C'est fou. On a parlé tellement de choses. Et du coup, je voulais savoir, où est-ce que tu vas charger, bah, justement, ces recettes-là pour, bah, par exemple, moi, faire une crème, j'avoue, je sais pas, j'ai les basiques de... Déjà de l'huile de coco et je sais pas quoi les avec. Voilà, déjà de l'huile de coco, c'est cool.
C'est clair.
Et c'est vegan. Mais donc, comment tu vas chercher ça ?
Alors, pour ce qui est des recettes, il y a évidemment des tonnes de blogs, etc. Mais moi, je suis un peu. Je sais pas, je suis un peu flippée. Je prends pas forcément des recettes qui viennent de partout. Parce qu'on sait jamais qui. Enfin, personne n'est pro en ce domaine, quoi. Du coup, je regarde des recettes qui ont été validées par. Je sais pas si c'est un label, une asso ou quoi que ce soit, Slow Cosmetics. Qui vérifie les recettes, les composés, etc. pour voir si c'est OK. Bon, du coup, petite publicité, les os. Et toutes ces recettes-là sont diffusées sur le site internet de Génération Cobaye. Donc, je vous encourage à aller où il y a un répertoire de recettes qui est assez top.
Donc rappelons, qu'est-ce que c'est Génération Cobaye ?
Mais allez-y ! Génération Cobaye, c'est une association de santé et environnement qui fait beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes pour du coup parler plein de choses, mais je pense qu'on risque de partir plus loin, mais de perturbateurs endocriniens par exemple dans des cosmétiques, entre autres, et du coup comment passer à un mode de vie plus sain où on se serait débarrassé justement de ces perturbateurs endocriniens.
Oui, donc c'est les perturbateurs endocriniens simplifiés, c'est juste c'est des produits qu'il y a dans tes produits cosmétiques qui favorisent les cancers, les maladies, les trucs sympas hein, pour ton corps de manière générale et pour ta santé. Et donc du coup, voilà, Génération Cobaye, c'est vraiment une association qui essaye de dire bah, en fait, regarde, il y a des gens qui font des trucs sans ça et c'est peut-être un peu mieux. Et ils notamment, moi, je les ai connus grâce aux 7 ou 12 commandements de l'orgasme. Les 7 commandements de l'orgasme.
De l'éco-orgasme.
De l'éco-orgasme. Et donc du coup, c'est... C'est vraiment une explication de voilà ce que tu peux faire pour améliorer au mieux ta sexualité pour ne pas avoir de problèmes de santé à cause de tout ça. Donc c'est plutôt cool. Une association à suivre, cool. Je vous mettrai le lien aussi, c'est très intéressant.
Voilà, et du coup il y a toutes les recettes de tout ce dont tu peux imaginer. Aujourd'hui j'ai refait du dentifrice par exemple, aussi absurde que ça puisse paraître parce que c'est pas les choses auxquelles on peut penser. Mais ouais, dans les dentifrices il y a aussi des trucs pas très très cool à mettre dans son corps. Du coup, voilà.
Genre quoi ?
On va se calmer direct.
Ok, pardon. Ok.
Moi,
très
je les ai lus. Je me suis dit, oh là là, oui, ça a l'air de faire peur. Oh, ça a l'air vachement plus drôle à faire soi-même. Et en plus, ce ne sera pas testé sur les animaux. Du coup,
tu l'as fait toi-même. Voilà. Ok, pas plus de questions, pardon. Ok, je m'excuse, pardon. Sorry. Combien de temps ça te prend justement de faire tes cosmétiques
Ça dépend. Mais grosso modo, je fais les choses en grande quantité parce que j'ai pas beaucoup de temps. C'est faux. J'aime pas mettre du temps là-dedans. Du coup, genre, je fais pas des recettes. S'il y a plus de 4 ingrédients, c'est vraiment mon maximum. Ça m'ennuie assez. Même si c'est fun à utiliser après, j'ai pas envie de passer 40 plombes devant mon beurre de karité. Du coup, je fais ça en gros, soit avec des potes qui veulent les faire aussi, soit je sais que j'en fais plein et que je vais enfiler à d'autres personnes aussi.
Ouais.
Tout à faire, tu vois.
Bon. Tu passes la bonne parole.
Et du coup, par exemple, pour ma lessive, genre, j'en fais pour mes 4 mois, vraiment. Mais je fais ça en 30 minutes, quoi. C'est enfin, une grosse casserole, de l'eau, du savon de Marseille, un peu de vinaigre et t'es bon, quoi. Du coup...
Stylé.
Ouais.
Plutôt pas mal, aussi. En effet.
Ouais, puis quand tu perds pas ton temps à faire tes courses pendant je sais pas combien de temps, où tu te perds dans les magasins et...
Tu trouves ton savon de Marseille, c'est pas forcément.
Ah, je vis dans le sud, donc...
Je sais pas.
Mais non, je connais pas, désolée.
Ok. Et donc, la grande question aussi du cruelty free, je pense, c'est le truc des multinationales. En fait, parce qu'il y a des marques qui sont cruelty free, etc. Mais en fait, moi, je sais que je me suis intéressée à ça pendant un moment. Et j'étais là, ok, c'est un mindfuck, en fait, parce que cruelty free, donc c'est ne pas tester sur les animaux. En vrai, il me semble que c'est en Europe ou en France que c'est passé. Genre, c'est interdit maintenant de tester sur les animaux, dans l'idée. Sauf que, en fait, en Chine, par exemple, c'est obligatoire. S'ils veulent vendre sur le territoire leurs produits cosmétiques, ils sont obligés de tester sur les animaux. Et donc, souvent, t'es obligé de faire un espèce de tri. Donc, il y a plein de sites. Je pense que peut-être que tu les connaîtras mieux que moi, parce que moi, je les ai pas en tête. Mais au pire, je les mettrai sur le site de Mademoiselle après coup, quand j'irai faire mes recherches après l'émission. Et en fait, il y a plein de sites qui répertorient toutes les marques cruelty free et à quel point elles sont cruelty free. Parce qu'en fait, donc, tu peux dire, bon bah voilà, nous on est cruelty free, mais en fait on vend en Chine. Donc ils sont cruelty free pour tous les autres pays, donc ils vont pas tester sur les animaux, mais ils vendent en Chine, donc forcément ils sont obligés de tester. Donc bah, au final, ils sont pas cruelty free. Et puis, je crois qu'il y a des trucs de aussi, bah, on est cruelty free, mais on appartient à un groupe qui ne l'est pas. Par exemple... Je ne sais pas si c'est Nars ou Tarte, qui sont deux grosses marques qui sont connues pour être cruelty free. En fait, elles appartiennent à des grands groupes genre L'Oréal. Alors, je dis certainement n'importe quoi, hein, n'hésitez pas à me reprendre. Mais c'est pour vous donner l'idée. Et L'Oréal n'est pas cruelty free. Enfin, les produits L'Oréal ne sont pas cruelty free. Donc, du coup, c'est toujours un peu la grande question des gens qui veulent consommer cruelty free. C'est pas, bah, comment on fait, par où on commence, parce que même quand tu veux donner de l'argent à des marques qui justement font des efforts pour aller contre tout ce qui est cruelty free et exploitation animale, bah en fait tu te retrouves à donner à certaines marques qui en fait donnent leurs bénéfices à des marques qui ne le sont pas, enfin bref, c'est compliqué. Donc je vais vous mettre des liens quand on aura fini l'émission, comme ça si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir, il y a des sites très bien qui en fait leur travail, c'est d'envoyer des mails à toutes les marques pour leur demander « Est-ce que vous testez sur les animaux ? Est-ce que vous avez des preuves ? Est-ce que vous êtes racheté par quelqu'un ?» machin. Et en fait, ça peut changer du jour au lendemain. Des fois, là, je sais plus, je crois que j'ai vu une marque, je crois que c'était Nars, ils se sont fait alpaguer parce que en fait, non, ils sont pas cruelty free. Du coup, c'est un peu... Il y a aussi un truc de « C'est comme ça à la mode, on va le dire. » Et puis, en fait, ils le font pas vraiment. Bon, bref. Je passe à un autre sujet qui n'est pas du tout le véganisme. Je voulais aussi parler des fringues, justement. Donc, tu disais tout à l'heure, c'est ne pas consommer bah, donc de dérivés animaux, donc la laine, notamment le cuir aussi. Toi, comment est-ce que ça se passe pour toi ? Tu disais aussi qu'il y avait une question de budget. Donc, est-ce que, par exemple, tu fais, au lieu d'acheter tes fringues, je sais pas, chez H&M, tu vas les acheter en friperie, en seconde main ou des trucs comme ça ?
Carrément, ouais, en fait. si, vraiment, je suis... Mais du coup, ce n'est pas prévu, mais je suis passionnée de... Je sais pas si c'est un concept, mais de mode de seconde main, vraiment. Et donc, ouais, non, friperie all the way. Et c'est vraiment trop cool parce que, voilà, ça faisait partie des choses que je faisais pas spécialement avant ou de temps en temps pour rigoler. Et c'est vrai qu'en redécouvrant ce mode de consommer, bah après, voilà, j'aime les vêtements, j'aime la mode, du coup je vais en magasin comme je faisais avant, et là je vois plus du tout les choses de la même manière, je vois de la laine partout, et la laine, on a cette image un peu bucolique, des moutons tendus sur la montagne, mais c'est pas du tout ça, je vous invite à la regarder sur les internets. Et donc voilà, tu vois des produits animaux partout, et après bon bah, c'est vrai que tu repenses à tout, ouais, ça te met un peu des lunettes peut-être, des filtres par-dessus, et du coup, bon, bah, l'exploitation aussi humaine qui est derrière les grandes chaînes, tout ça. Du coup, c'est vrai que je me suis mis à plus voir les choses de la même façon. Du coup, voilà, tout ce qui est grandes chaînes, j'y vais plus, mais plus du tout. Alors que seconde main, tu trouves des trucs. Et donc, ouais, friperie énormément, seconde main, tout ce qui va être aussi des sites internet de revente de vêtements, et ça t'oblige à prendre des compétences dans d'autres choses, au fait, voilà, je ne savais pas faire des cosmétiques avant, il y a 2 ans, bon, je ne savais pas trop reprendre non plus des vêtements avant, mais là, ça t'oblige, bah, du coup, à... Évidemment, voilà, moi, je vois ça avec le temps que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est ce que tout le monde doit faire du tout, mais du coup, de reprendre des vêtements pour les remettre à la taille, etc.
Ouais. Ah, c'est intéressant, ça, parce que du coup, c'est vraiment des trucs qu'on oublie, enfin c'est pas qu'on oublie, c'est juste qu'on nous a jamais appris, parce qu'en fait le mode de consommation global, c'est juste, bah, il y a un truc qui est troué, tu le jettes ou tu le donnes et tu vas en racheter un autre. Et en fait, toi t'es plus dans un truc, c'est parce qu'on parlait par téléphone, donc à chaque fois que j'invite des gens dans C'est ça qu'on aime, avant je les ai au téléphone quand même pour discuter avec eux. Et donc toi tu me disais que notamment, bah, par exemple t'as des pulls en laine et t'avais des chaussures en cuir, bah en fait, elles ne s'usent pas et elles sont de bonne qualité, donc tu ne vas pas les jeter pour racheter des chaussures de moins bonne qualité, si ?
Alors, les chaussures, ça m'a duré peut-être 2-3 mois après mon passage, pour le coup. Okay. Après, j'ai plus pu. Le fait est qu'elles ne s'usaient pas, mais je ne pouvais plus regarder mes pieds, quoi, donc ce n'était pas possible. Mais le fait est que je ne vais pas... Voilà, on a cette image des véganes qui vont venir derrière vous pour vous dire que vous faites les choses mal, mais en fait, non, évidemment, je comprends très bien que tout le monde n'a pas le budget de se racheter des chaussures, et que si tes chaussures, bah, sont en cuir et de bonne qualité et que tu n'as pas les sous, enfin...
Oui.
L'idée, c'est vraiment de faire de son mieux pour éviter l'exploitation animale. C'est pas de
changer de monde.
De changer de monde. Mais c'est pas s'imposer une discipline qui, au final, te punit plus qu'autre chose.
Bah, après, ça, cette notion de punir, se punir, ça peut être vu de manière très différente par plein de gens. Donc, pas forcément. Peut-être que moi, ma façon de vivre, par exemple, voilà, le véganisme ne veut pas forcément dire faire ses cosmétiques soi-même et aller en friperie. Il y a des personnes qui sont véganes et qui achètent des fringues qui ne sont pas de la seconde main et qui achètent des marques de cosmétiques véganes, c'est tout aussi possible. Et je me suis perdue dans mon fil de pensée. voilà. Et donc non, ouais, le cuir, j'ai personnellement plus pu. Mais c'est vrai que j'ai encore, par exemple, des pulls en laine que j'ai depuis des années, je pense que j'ai depuis le collège, et c'est vrai que je ne vois pas les racheter, reconsommer quelque chose. J'aurais pu reconsommer de la seconde main, mais encore une fois, voilà, on fait tous à notre niveau. Pour faire le mieux, là voilà, je pourrais donner ou jeter ce pull, mais ça lui fera pas plus de mal, plus de bien. Donc c'est vrai que ça se pose comme question, et que je comprends si quelqu'un est un peu choqué en mode bah t'es pas entier dans ce que tu dis. Mais voilà, je fais de mon mieux pour ces pulls ont probablement 10 ans. Je pense pas que j'ai la vegan police.
Non, mais je pense que en plus c'est un truc important, c'est-à-dire que vegan, ça amène aussi donc un mode de consommation différent, et à un moment donné, bah je pense qu'il y a aussi derrière une idée de la planète est un peu en danger, on va se calmer. Du coup, je pense que c'est ça aussi qu'on n'a pas expliqué encore, mais pourquoi t'es vegan ? C'est à cause de l'exploitation animale, ou c'est aussi un truc écologique ?
Moi, c'est 100% les animaux. Pour le coup, j'entends... Il y a plein d'autres raisons et c'est trop cool, du coup, parce que si je fais ça et en plus ça aide le reste, c'est trop trop bien. Mais vraiment, moi, c'est 100% entièrement pour les animaux.
Ok, d'accord. Parce que moi, je sais que personnellement, si je suis devenue végétarienne, c'est aussi pour une question d'écologie, parce que bah, en fait, les statistiques le prouvent, c'est-à-dire que pour avoir de la nourriture qui est, par exemple, on va tuer un cochon et on va avoir de la nourriture, bah, en fait, le cochon, il a fallu le nourrir en amont et donc aussi le faire boire. Et donc, en fait, ça consomme un cochon, ça consomme de la nourriture, etc., que en fait, bah, autant ne pas manger ce cochon, et comme ça, il va pas consommer plus, et comme ça, on peut donner la nourriture peut-être à d'autres gens, et faire d'autres trucs, tu vois, genre, il y a des gens qui sont mal nourris sur cette terre, alors que... Et il y a des cochons qui meurent parce que t'as envie de manger de la viande. Est-ce qu'on pourrait pas, genre, faire vivre les cochons, ne pas les engrosser pour qu'ils deviennent énormes, et comme ça, ils vivent leur vie normale, et ils consomment pas énormément d'eau, ni énormément de nourriture, et comme ça, la nourriture, elle va aux gens qui en ont besoin, enfin, tu vois, il y a tout un truc... Bref... Et du coup, je pense qu'il y a aussi un truc écologique derrière le véganisme et même les autres manières de consommer, c'est-à-dire ne pas consommer de la première main, mais aller que en friperie, par exemple. C'est bah, juste se dire, je fais pas partie de l'exploitation de la consommation actuelle, quoi.
Je te trouve vraiment extrême quand même.
Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis très extrême. Pardon. Mais donc voilà, je pense que c'est ça qui y a derrière aussi le véganisme. Et donc, je pense que en effet, ne pas jeter un pull parce que t'as décidé, enfin parce que c'est de la laine, bah peut-être au lieu de le jeter, on va le donner à quelqu'un qui en a besoin. Parce que du coup, quitte à faire ça, autant que ça serve à quelqu'un, parce qu'il est là le pull en laine. Tu vois.
Mais après, c'est vrai que ce genre de réflexions, elles sont vite transposées à plein d'autres choses. Il y a plein de gens qui me disent « Non, mais ce bout de viande, il est là. Pourquoi tu ne le manges pas ?»
Oui.
Il a déjà été tué. Et le fait est que c'est plus la question au bout d'un moment. Tu vois,
donc oui, mais plus, il est là, mais moi, je l'achète pas, tu vois.
Oui, mais quand bien même, genre, combien de fois on m'a dit « Non, mais ça va, t'es invité. Tu vois, oui, okay. Si je suis chez quelqu'un, on m'a cuisiné le plat et tout ça. » Et au-delà de ça, voilà, c'est juste le côté, oh, le mot qui fâche, pardon, éthique du truc. Donc voilà, moi pour la laine, c'est pas le truc qui me reste au fond du cerveau, donc je vais pas non plus m'étaler dessus. Mais c'est vrai que du coup, pour la viande, il y a plein de personnes qui se disent ça, genre bah écoute, la viande elle est là. Mais de se dire, est-ce que moi j'ai envie d'avoir. J'essaie de pas dire des mots trop durs, je sais pas si vous
remarquez. Bah non, mais t'inquiète. Peu, mais
un animal mort dedans moi, tu vois. Ouais. Et je comprends que quelqu'un. Et je pense que ça finit par m'arriver. Tu vois, on en parle ce soir. Tu paries que demain matin, je regarde mes pulls, je ne vais plus les porter. J'y pensais pas vraiment, mais est-ce que je veux vraiment porter sur moi quelque chose qui a provoqué de la souffrance, ouais. etc. Demain, je porterai plus mes pulls en laine.
Ok, c'est bon. Désolée.
Bon, enfin, conséquences inattendues là, voilà, ce podcast.
Ça y est, mais oui, non, mais je comprends. Écoute, merci, Blaise. Écoute, on va faire une pause musicale, on va se réhydrater, faire une pause pipi aussi éventuellement si on en a besoin. N'hésitez pas le chat à faire une pause pipi. qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter Wishing Girl de Lola March. À tout de suite.
Let's get away. We sure need a lazy summer day. But oh dear, we've gotta stay and finish all that we needed to say. Now darling, if you fall, I'll be there to hold you. 'Cause I gave you my soul long time ago. You are my lonely star, and I'm your wishing girl. Now hate you, clear your mind. Your stubbornness is all that I can find. But oh dear, we've gotta stay finish all that we needed to say. Now darling, if you fall, I'll be there to hold you. 'Cause I gave you my soul long time ago, long time ago. 'Cause you are my lonely star, and I'm your wishing girl. 'Cause you are my lonely star, and I'm your wishing girl. 'Cause
remarqué que c'était la fin, dis donc. Hop, 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 hop. Voilà le live, nous sommes de retour dans C'est ça qu'on aime. Et ça y est, on a fini de parler de véganisme. Les gens qui sont sur le chat pour nous entendre parler de ça, vous pouvez partir parce que les gens méchants, je veux dire.
Ils sont vieux. Voilà.
Les gens méchants, les gens insupportables qui laissent des commentaires négatifs, n'hésitez pas à partir. On va maintenant parler de notre second sujet du soir, c'est donc l'engagement étudiant. Mathilde, tu es élue à la FAGE pour siéger, attends, il faut que je retrouve,
vas-y.
Au CN... Où est-ce que c'est?
Tu peux le dire d'un coup.
CNR...
Au CNESER.
Au CNESER, très bien, ok, je dépasse. Je n'ai pas dit. Alors, qu'est-ce que c'est que le CNESER et la FAGE?
Grande question, c'est beaucoup de choses en même temps. Le CNESER, c'est le Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Et donc, en fait, c'est l'instance qui travaille directement avec le ministère de l'Enseignement, de la Recherche, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc du coup qui rassemble les syndicats des personnels, des enseignants, etc. Et on travaille tous ensemble pour essayer de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche quelque chose de bien et où ouais. Tout le monde soit content.
Super.
Donc voilà, et la FAGE en fait c'est une organisation étudiante parce qu'évidemment il y en a plusieurs. Et donc c'est une organisation étudiante au niveau national qui fédère tout un tas d'associations étudiantes, soit locales, donc dans les universités, soit de filières. Et en fait, on est tout un tas de bénévoles, de militants, d'associatifs à travailler ensemble donc sur tous les sujets que peuvent toucher l'enseignement supérieur, la recherche, toute la partie sociale, toute la partie prévention aussi auprès des étudiants, etc. Donc c'est très large. Le but est d'améliorer les conditions de vie des étudiants principalement, de faire quelque chose de beau tous ensemble, ça fait un peu bisounours comme
ouais,
ça.
Ouais, de défendre leurs droits.
C'est ça, voilà, on défend les droits des étudiants, on mène aussi des projets, on monte un peu des événements, des choses comme ça. On essaye de faire des choses sympas, de porter des valeurs. Et puis là, dernièrement, on a eu la chance de devenir première organisation de France. Donc du coup, on est assez fiers, mais on a d'autant plus de responsabilités sur ce qu'on va faire. Voilà.
Ok, donc toi, tu es étudiante en espagnol, si je ne me trompe pas. Donc tu es à Avignon.
Oui.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
À la base, comment est-ce que tu passes de étudiante en espagnol en L1 en arrivant à la fac à élue dans un conseil national qui est relié au ministère? C'est quand même... Je pense qu'il y a pas mal d'étapes entre les deux. Et si tu pouvais nous expliquer comment on arrive jusqu'ici.
Bah écoute, je ne sais pas.
Non, toi-même, concrètement, tu te poses encore la question.
Ouais, moi-même, je me pose encore la question. Concrètement, quand je suis arrivée à Avignon, je suis tombée dans l'associatif un peu par hasard. Il y avait une asso qui est venue se présenter à la pré-rentrée, donc une asso locale sur ma fac. Qui est venu se présenter à la pré-rentrée en disant « Ouais, on fait un festival d'art de la rue pour donner des exemples, des choses comme ça. » Et moi, à côté de ça, je suis graffeuse, donc du coup, je me suis dit « Waouh, cool, je vais aller voir ça !» Je les ai rejoints, je suis devenue bénévole pour eux parce que c'était plein de gens chouettes que j'aime beaucoup. Donc du coup, on a commencé à travailler ensemble. C'était une petite asso qui avait pour but donc, d'animer le quartier autour de l'université et de relier un petit peu ensemble les commerçants, les habitants et les étudiants parce que c'était un quartier qui n'était pas très très animé, où il ne se passait pas grand-chose. Donc je suis rentrée là-dedans et puis un jour on m'a dit « Viens au WEF ». Alors j'ai regardé la personne qui m'a dit ça. Quoi ?
Déjà, s'il te plaît.
C'est ça, voilà, exactement.
Calme-toi bien.
Donc, s'il te plaît, tu peux éviter de m'insulter avec des mots que je ne comprends pas. Et en fait, WEF, c'est week-end de formation. Et donc, c'est l'association qui fédère les associations étudiantes sur mon université, qui organisait un week-end de formation associative et pour les élus étudiants, pour nous expliquer un petit peu... comment on fait de la trésorerie, qu'est-ce que c'est le secrétariat, ça pouvait aller plus loin. Moi, j'y suis allée vraiment pour apprendre les bases des bases, qu'est-ce que c'est une asso, comment ça fonctionne, c'est quoi un CA, une AG, enfin voilà, tous ces trucs-là que je comprenais pas du tout à l'époque. Et puis pour se rencontrer entre nous. Et là, gros coup de cœur pour tout ce qui se passait, en me disant « Waouh, mais en fait, on peut faire plein de choses, on peut faire tout ce qu'on veut, on est tous ensemble, on rencontre des gens formidables qu'on n'aurait pas forcément rencontrés, parce que moi, en plus, je suis dans une toute petite promo en espagnol, il n'y a pas beaucoup de monde. » Et donc, du coup, bah, on rencontre des gens qui sont en STAPS, en droit, en AES, enfin voilà, tout un tas de formations. Désolé pour ceux que j'oublie, il y en a beaucoup. Et donc voilà, j'ai commencé à traîner un petit peu avec les gens de la fédération, à m'investir de plus en plus pour eux. Il y a eu des élections étudiantes, donc j'ai vu à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que c'était la démocratie étudiante, à quoi ça servait, sans toujours trop tout comprendre, parce que c'est quand même complexe comme organisation. Je me suis engagée au sein de mon UFR, donc pour simplifier les choses, c'est genre t'es déléguée au niveau de toute ta composante, donc moi c'était tous ceux qui étudiaient les arts, les lettres et les langues, et donc bah, je les représentais à ce niveau-là. Donc j'ai fait ça, et puis ça m'a plu, j'ai continué, donc je suis devenue vice-présidente de la petite asso dont je parlais au début, et je suis rentrée dans le bureau aussi de ma fédération, devenant secrétaire générale de la fédération. Sont venues les élections pour ce qu'on appelle les conseils centraux, donc les conseils de l'université en soi et les instances où on gère un petit peu bah, tout ce qui est études, formation, vie étudiante, recherche, etc. Donc il y a eu ces élections et on m'a dit bah, « viens sur la liste ». Et donc j'ai dit « hey, ok, ça va, j'arrive ». J'y suis allée et ensuite on m'a dit, parce que donc à l'université, c'est compliqué d'expliquer tout ça.
Non mais c'est important, je pense.
J'essaie d'être claire, mais okay. si jamais je me perds un peu, il faut me le dire aussi. À l'université, il y a un ou une vice-présidente étudiante. Parce que l'université, la gouvernance en fait, est constituée d'un président ou une présidente, moins souvent quand même, et de plein de vice-présidents qui choisit dans son équipe. Et parmi eux, il y a un ou une vice-présidente étudiante qui gère la partie vie étudiante, vie de campus, bien-être étudiant, associatif, etc. Et donc du coup, on m'a proposé, parce que la personne qui était vice-président étudiant avant donc, que j'arrive à ce moment-là, avait fait 6 ans de mandat et donc allait partir au bout d'un moment, puisqu'il le faut. Et donc on m'a proposé de prendre sa place, enfin de prendre sa suite. Donc j'ai dit oui. J'ai dit beaucoup oui, dans l'histoire ça va revenir. j'ai dit oui et en fait il se trouve que j'ai eu à ce même moment-là des gros problèmes de santé. Donc je suis partie et je suis allée à l'hôpital pendant 3 mois, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas pu prendre la suite et j'ai démissionné de pas mal des postes que j'avais pour pas bloquer tout le monde. Donc c'est une autre personne, une délicieuse personne d'ailleurs, qui a repris la vice-présidence étudiante. Mais quand je suis revenue, bah, j'étais toujours à fond et toujours à me dire « ouais, c'est méga cool ». Donc j'ai bossé beaucoup avec cette personne-là, un peu en binôme, à essayer de l'aider comme je pouvais parce qu'elle, bah, elle venait de prendre un nouveau mandat, donc c'était forcément compliqué. Donc voilà, fin de l'année universitaire, tranquille, on part sur les vacances. Dernières vacances de ma vie, je pense. Et l'année d'après, en début d'année, je me dis « tiens, ce serait cool si on faisait un truc genre semaine égalité ou un truc comme ça ». Et donc, je suis rentrée à nouveau dans le bureau de ma fédération en tant que chargée de mission, semaine d'égalité et la tolérance. Et donc, j'ai monté un gros projet, d'ailleurs, sur lequel Mademoiselle a été partenaire, puisque Clémence est venue nous faire un petit coucou et faire une super intervention. Et donc, voilà, ce gros projet sur lequel j'ai bossé toute l'année, jusqu'à plus pouvoir en entendre parler à la fin, parce que c'était plus possible, où je me suis mise à rencontrer énormément de gens parce qu'on a bossé avec des partenaires. On a eu la grande fierté aussi d'avoir ce projet qui a été labellisé par le ministère, donc à l'époque ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes, qui a été labellisé sexisme pas notre genre. Donc du coup ça veut dire bah, faire une rencontre avec tous ces gens-là, échanger sur ce projet, etc. Et jusqu'au moment où... ouais grave, c'était super cool. Et jusqu'au moment où donc, la Fédération Nationale, avec laquelle je travaillais de plus ou moins loin, ils font un peu des événements, des congrès, des choses comme ça, donc j'y allais un peu, mais je les connaissais pas très bien. Et puis ils sont venus me voir en me disant « oui, il y a des élections au CNESER ». Donc moi j'étais pareil, j'étais là « c'est quoi le CNESER ?» Et « est-ce que tu voudrais nous rejoindre sur la liste ?» Et donc, une fois n'est pas coutume, j'ai dit oui. Et donc je les ai rejoints et on a été élus en juin, début juin. Donc voilà, c'est tout nouveau.
Et donc là, tu es à Paris justement parce que c'est ta semaine de passation.
C'est ça.
Afin de comprendre un peu qu'est-ce que tu vas faire exactement à la phage. Moi, je voulais aussi qu'on vienne un peu sur, justement, en tant qu'étudiant, s'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui sont intéressés par tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent s'engager à leur niveau, dans leur fac ou à l'échelle plus globale, j'en sais rien, je ne sais pas s'il y a des régions, plutôt des trucs régionales ou des trucs où ça passe direct au niveau national ?
Il y a tout.
Okay.
Toutes les possibilités. Et ce qui n'existe pas, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, ce qui n'existe pas, on peut le créer. Et c'est ça qui est génial dans l'initiative. Enfin, là, la semaine de gaieté, de la tolérance n'existait pas. Et je me suis dit, ouais, il y a des valeurs que j'ai envie de défendre et tout ça, ce serait vraiment cool. Puis j'avais envie de bosser avec des gens, notamment Mademoiselle, j'avais vraiment envie de bosser avec vous. Et donc, du coup, j'ai dit, on va faire ça. Et donc ça marche. Après, pour s'engager, alors il y a énormément de possibilités. Ça dépend de où on est étudiant, ça dépend si c'est université, si c'est une école, si c'est un IUT, etc. Il faut savoir que même dans les lycées, il y a des fédérations lycéennes qui existent. Généralement, vous avez des fédérations locales. Surtout sur les universités, moi c'est ce que je maîtrise le mieux, mais il y en a aussi dans certaines écoles et donc des assos qui sont sur l'université, sur le campus ou sur la ville. Donc il y a ces possibilités-là. Il y a des associations et fédérations de filières donc, qui sont au niveau national mais qui concernent uniquement les étudiants d'une filière. Et toutes ces assos ont des bébés assos, on va dire, qui sont des structures locales sur les campus, sur les villes. Donc il y a tout un tas de possibilités. Rien qu'à Avignon, on a toujours d'ailleurs des assos culturels, des assos sportifs, des assos de filières, des assos de médias. On a une radio étudiante, on a une web TV étudiante, on a un journal étudiant, on avait une asso de ciné, on a une asso de promotion de la musique classique auprès des étudiants. Donc on a des ballets et des concerts au milieu du campus. Enfin voilà, il y a toutes les possibilités.
Plein de trucs. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans le fait justement d'aller défendre en fait les droits des étudiants et carrément à un niveau national en fait? Je sais que tu m'as dit la dernière fois, t'as un peu combattu ton syndrome de l'imposteur.
Ouais.
Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que toi, la fédération t'a proposé de te présenter donc, au CNRS.
CNESER,
je vais y arriver, CNESER.
T'inquiète pas, ma maman, elle n'y arrive pas non plus.
Ok, bon, ça va. Ça va. Donc comment ça se passe, toi, quand on te propose ça? C'était quoi le chemin de pensée, justement, pour contrer un peu ton syndrome de l'imposteur? Parce que tu venais quand même de créer un événement entier qui n'avait jamais eu lieu, etc. Et là, on te propose un poste,
mandat. Oui, tu peux, un mandat, ouais.
On te propose un mandat qui est pareil, qui est un truc nouveau pour toi. Et en fait, tu viens de créer un truc tout entier. Et tu as quand même un sentiment de « Ah non, mais je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour faire ça. Peut-être que je suis Non, mais ils vont se rendre compte que je ne suis pas assez bien et machin. » Comment ça se passe dans ta tête?
C'est ouf parce que tu vois, là, tu me dis, ouais, t'as quand même créé un truc tout entier, tout ça. Et moi, je suis là, non, mais ça va, c'était pas grand chose. Enfin, c'est bon. C'est ça. Donc, ouais, c'est super dur. Bah, en fait, c'est une lutte quotidienne parce que bah, là, pendant la passation, notamment, moi, j'ai eu des moments de panique de, mais qu'est-ce que je fous là? Mais je vais jamais en être capable. Tous les autres, ils ont l'air de bien maîtriser et moi, je sais pas faire. Donc ouais, c'est compliqué au quotidien. Et même d'ailleurs dans des mandats que j'ai depuis plus longtemps, bah, ce que je disais tout à l'heure, le côté délégué des étudiants dans ma composante, ça fait plus de 2 ans que je suis en mandat, et encore maintenant des fois je me dis ouais, j'ai l'impression que je fais de la merde, que je sais pas faire et tout ça, alors que ça se passe plutôt bien globalement.
Ouais.
Alors le cheminement, bon, moi j'ai des trucs qui me font kiffer, j'aime m'engager, j'ai besoin d'essayer de changer les choses. Je ne peux pas rester sans rien faire face à l'injustice et je suis un peu hyperactive aussi. Donc du coup, tu as ça qui naturellement me pousse à avoir envie de découvrir des nouvelles choses, la curiosité, les nouvelles rencontres, etc. Et puis ensuite, et ça c'est un truc hyper important, j'ai des amis. Et j'ai des amis super cool, notamment dans l'associatif. Certains qui se sont engagés après moi, d'autres qui se sont engagés longtemps avant moi, et je pense notamment au vice-président étudiant dont je parlais, qui sont des gens méga compétents, moi que j'admire et je trouve qu'ils font un travail de fou. Et maintenant je connais mon réflexe, quand j'ai un moment où je sens le syndrome de l'imposteur se pointer,
j'envoie un message à ces amis-là en leur disant « Hey, j'ai besoin de vos mots là pour me dire que je suis capable de le faire. Oui. » Et ensuite, j'ai pris des réflexes de m'inspirer de meufs badass, que je trouve cool. Et notamment, bah, j'ai beaucoup fait ça et je lui avais expliqué d'ailleurs avec Clémence, où quand on m'avait proposé pour le CNESR et que je galérais à choisir, je suis allée relire la lettre de motivation qui avait été publiée sur Mads. Ouais. Donc voilà, j'essaie de me pousser moi-même.
Donc Clémence, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Clémence Baudoc qui est notre rédactrice en chef chez Mademoiselle, qui est rédactrice en chef depuis octobre, je crois, chez Mademoiselle. Et donc du coup, elle a passé plusieurs années chez Mademoiselle. Et un jour, elle a débarqué avec une lettre de motivation à Fab qui lui disait depuis déjà un moment « Ça serait bien que tu sois rédactrice chef. » Je sais pas si tu as envie, mais je pense que ça pourrait être cool. Et donc elle est partie en vacances et elle a rédigé une lettre de motivation que je vous mettrai en lien, qui est
cool.
Juste ouf. Et en effet, je comprends que ça ait pu t'inspirer. Mais de toute manière, je trouve que Clémence est une personne relativement inspirante
dans la vie. Ouais, d'accord. Hein.
Ouais. C'est une personne qui sait un peu ce qu'elle veut et qui réfléchit vachement sur elle-même et sur pourquoi elle a des blocages et des trucs comme ça. Donc je comprends. Et justement, ma question, c'était aussi, tu dis, oui, quand je pense à ces personnes-là, je suis hyper inspirée parce que je les trouve hyper compétents, etc. Est-ce que tu te rends compte que c'est possible que eux pensent exactement ça quand ils pensent à toi?
Alors, j'en suis consciente, puisqu'on me fait ces retours-là, mais je le ressens pas au plus profond de moi-même. Je suis toujours là, non, mais de toute façon, il faut se rendre compte à un moment que ça, je maîtrise pas. J'essaye de lutter contre ça parce que je le vois et que je me bloque par rapport à certaines choses à cause de ça, mais ouais, souvent je me dis non, mais c'est eux qui maîtrisent, c'est eux qui m'apprennent, quoi.
Ouais. Pour, au cas où, je ne sais pas, Internet, peut-être ne sais-tu pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Il y a un très bel article de Lady Dylan sur Mademoiselle qui parle de ce syndrome, et donc elle le décrit comme ça. Je pense que je vais juste faire la citation parce que c'est très bien expliqué. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix qui te dit que non seulement tu n'es pas assez bien, mais que tu es une menteuse qui cache à tout le monde à quel point tu es nulle. Le syndrome de l'imposteur, c'est croire que tes réussites sont dues à la chance ou à n'importe quel autre facteur que juste toi, autre que le fait que tu puisses réellement être doué pour quelque chose. Voilà.
C'est ma biographie.
Je pense que ça résume bien les choses. Et donc quand même, tu as ce syndrome de l'imposteur que tu as réussi à dépasser, et donc maintenant quand même tu sièges dans un conseil national, ce qui est plutôt énorme. Et je voulais savoir qu'est-ce que sera ton rôle justement à la fédération, comme tu es en train de faire la passation, qu'est-ce qu'il y a comme tâche précise, et est-ce que ça te sert toi pour voir un peu envisager ton futur, et qu'est-ce que tu ferais après justement pour ta vie active?
Alors, sur mon rôle, bon, il est encore à définir précisément, parce que voilà, moi je suis en train de découvrir tout ce monde-là que je connaissais pas forcément. Il y a toute la partie un peu bateau, on va dire, de siéger dans le conseil, de les préparer avant, d'échanger avec les différents acteurs, les syndicats, les ministères, etc., de travailler avec eux. Il y a l'accompagnement aussi des élus qu'on peut avoir dans les différentes universités, dans les différentes instances. Et puis ensuite, en fait, au sein de ce CNESR et puis tout autour, il existe tout un tas de commissions, de conseils différents qui peuvent donc être sur des sujets assez variés. Et donc, il faut qu'on se répartisse ça en équipe, parce qu'on est une équipe, on est assez nombreux en plus. Et il y a la possibilité de siéger dans ces choses-là, de porter des projets, de porter des revendications là-dessus. Ce que je prenais comme exemple l'autre fois pour t'expliquer ça et qui était assez parlant, c'était en ce moment il y a des problèmes avec APB, et donc du coup il y a plein de lycéens qui sont pas affectés dans des universités ou pas là où ils veulent, et que c'est un peu compliqué. Là, notre boulot, ça va être de réagir en conséquence, donc de faire en sorte de trouver déjà une solution sur le long terme pour que ça se reproduise pas, et puis là sur le court terme d'aider les lycéens qui sont un peu en galère, même carrément en galère, et de les aider et de leur trouver des places et de porter leur voix à ce niveau-là. Ensuite, voilà, sur le reste, c'est très large, et je pense qu'il y aura certainement d'autres choses que je vais découvrir au fur et à mesure, et j'espère aussi pouvoir façonner un petit peu mon rôle à mon image, on va dire, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent particulièrement. Après, sur ce que ça apporte au niveau personnel, évidemment, ça apporte énormément de compétences. Je dirais que ça apporte de la confiance en soi. Je suis pas sûre de pouvoir dire ça pour moi. Mais ouais, en théorie, bah, quand tu parles devant un amphi de 500 personnes, la première fois, t'es comme ça. Puis au bout d'un moment, bon, t'es à l'aise et c'est limite de la routine. Donc ouais, je pense que ça t'apporte un peu des choses là-dessus. Ça t'apporte des rencontres énormément. Et puis, au niveau de ce que ça pourrait orienter sur ma vie professionnelle et perso dans le futur, il y a pas mal de personnes qui passent par l'associatif étudiant et qui vont ensuite dans des carrières politiques, qui rejoignent des partis. Là, on a vu un ancien président d'une de nos fédés monter en tant que conseiller au ministère donc de l'enseignement supérieur.
Classe.
Donc ouais, classe, il y a plein de possibilités comme ça. C'est vrai que c'est fréquent. Je suis pas sûre que ce soit ça qui m'intéresse. Par contre, je me suis rendu compte, surtout avec ce projet de Semaine d'égalité, que c'était un aspect, l'aspect, on va dire, humaniste, agir pour essayer de changer les choses, le côté social et tout ça, que je ne pouvais pas envisager une carrière sans avoir cet aspect-là. Et il y a même un moment où je me suis dit, si je redouble encore mon année à la fac, j'aurais pas l'énergie de la refaire une troisième fois. Donc je vais me barrer, je vais faire autre chose, je vais aller, je sais pas, faire un service civico, planning familial ou un truc comme ça. Donc voilà, je sais clairement que j'aurais besoin de ça pour mon équilibre personnel.
D'accord, donc toi c'est vraiment la défense des droits étudiants qui t'intéresse principalement, quoi. C'est aider les personnes, tu disais tout à l'heure, face à l'injustice, tu peux pas rester de marbre. Est-ce que ça t'arrive du coup de défendre vraiment des étudiants en conseil disciplinaire ou des choses comme ça?
Ouais, alors bon, moi c'est la défense des étudiants et des valeurs aussi, ce qui est, je pense que dans tout le réseau avignonnais, si vous parlez de moi, ça va être la relou avec ses valeurs. donc voilà, après, ouais, défendre concrètement des étudiants, bah là en venant, quand j'étais dans le train pour venir, j'étais au téléphone avec le président de ma fédé pour lui parler d'un cas où on a eu un problème avec une étudiante, enfin qui s'est retrouvée confrontée à un enseignant visiblement malveillant. Et donc du coup, bah, ensuite j'ai échangé avec elle, etc. Alors moi je suis pas en section disciplinaire, il y en a qui y sont, il en existe dans les universités et il existe aussi une section disciplinaire au niveau du CNESER. Donc en gros, quand les étudiants sont pas contents et qu'ils font appel dans l'université, ça monte au niveau national. Moi j'y siège pas, mais par contre, bah, voilà, là on a eu tous les jurys avec les résultats aux examens, tous les problèmes qui ont pu être posés, alors soit des erreurs juste administratives où c'était mal noté, ou des problèmes plus graves. Des non-respect de régimes spéciaux d'études, des choses comme ça. Et donc bah, là, on se bat pour ça aussi.
D'accord. Et combien de temps ça dure pour toi un mandat là, par exemple, ton mandat à la FAGE, ça dure combien de temps?
Alors, un mandat associatif, c'est-à-dire dans un bureau d'une asso, généralement, c'est, en tout cas, on part sur une année universitaire. Un mandat électif, donc que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est 2 années universitaires.
D'accord.
Voilà.
Et donc là, je crois qu'on n'a pas expliqué comment ça se passait pour que toi, tu sois élu au Conseil national. Je ne suis pas sûre qu'on ait expliqué.
Non, on n'a pas expliqué. Alors, pour pouvoir prétendre à faire partie déjà d'une liste à ce conseil, il faut être élu donc, dans les conseils centraux d'une université, donc les instances de l'université au niveau local. Donc ce qui était mon cas, puisque là je suis même sur une fin de mandat, on termine le mandat en novembre je crois. Donc il faut être là-dessus. Il y a des listes qui sont montées par les organisations étudiantes. Et ensuite, ceux qui votent pour les élire, ce sont des grands électeurs qui sont nommés parmi les élus étudiants dans les conseils centraux des universités. Et t'en as un certain nombre selon les universités. Et donc, en gros, ils donnent l'enveloppe ensuite à l'orga en question.
Ok, donc on la refait. Donc, il y a une première base d'étudiants élus à la fac.
Ouais.
Ensuite, entre eux, ils s'élisent grands électeurs. Et ces grands électeurs-là élisent les personnes qui sont au Conseil national. Yes, j'ai compris.
Beaucoup d'élections.
Énormément d'élections, ça doit être compliqué. Vous faites quoi? À chaque fois, vous faites des campagnes électorales de « c'est moi qu'il faut élire en grand électeur ».
Alors, bon, à Avignon, on n'a pas trop vu ça parce qu'on est en très très grande majorité. Donc du coup, bah, en fait, tous les grands électeurs étaient de chez nous et c'était plus à savoir « ouais, t'es dispo toi à tel moment pour voter ?» Okay. C'est un peu plus ça. Après, alors, pour les grands électeurs, il n'y a pas forcément de campagne. Par contre, ensuite, ceux qui se présentent aux conseils nationaux font, nous on appelle ça le Knesser Tour, parce que ça fait un peu classe. Et donc on va voir les différents grands électeurs hein, en disant ouais voilà nous notre projet c'est ça, on voudrait défendre telle et telle chose, c'est, nous, on a une profession de foi et tout ça qui est diffusée. Après des campagnes électorales, ouais on en mène au moins une par an. C'est assez lourd parce qu'en fait donc tous les deux ans il y a les élections au conseil centraux, tous les deux ans mais inversé ouais. Il y a les élections au CROUS, donc Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, qui est le volet plutôt social, on va dire, ouais. Mais qui c'est pas l'université. Et tous les deux ans, il y a aussi les élections en conseil du FR. Donc, clairement, chaque année, on saoule les étudiants pendant une semaine avec des tracts partout, en allant leur parler sans cesse et en essayant de leur expliquer... un peu notre projet.
Est-ce que c'est pas compliqué ça justement d'aller voir les étudiants? Parce que moi c'est ce dont je te parlais quand on s'est vu la dernière fois, c'est en fait je savais que dans ma fac il y avait des élections étudiantes mais j'avais vraiment peu d'idées de ce que ça représentait et pourquoi fallait voter exactement et qu'est-ce que ça allait faire en fait à un niveau supérieur quoi. Enfin, pour moi j'avais aucune idée de ce que c'était. Est-ce que vous arrivez vraiment à sensibiliser les étudiants à ça ou est-ce que c'est compliqué?
Alors, c'est super compliqué, d'autant plus que c'est hyper éreintant pour nous de faire ça, parce que c'est des semaines où avant, on dort pas parce qu'on prépare la campagne, ou pendant, bah, forcément, il y a des personnes de l'opposition, c'est parfois difficile de s'entendre sur les campus. Enfin, ça arrive qu'il y ait des violences pendant des élections, etc., parce que c'est des choses qui ont un gros impact par la suite. Donc, il y a ça, on a quand même vachement de pression, donc c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, bah, les étudiants sont pas forcément... Il y en a qui sont très intéressés, et donc ça c'est super parce qu'on est toujours content d'en parler, et puis il y en a qui nous envoient juste chier, et quand toute la journée on se fait envoyer péter, bah, c'est un peu relou. Oui. Même si on sait que c'est très relou à l'inverse de toute la journée avoir des gens qui viennent te parler en te disant « Bonjour, est-ce que tu es au courant qu'il y a des élections étudiantes aujourd'hui ?» Donc voilà, les organismes et les organisations et tout ça, c'est compliqué, t'as plein d'instances différentes et c'est pas les mêmes choses à chaque fois et faut essayer d'expliquer mais quel est le rôle. Le CROUS, il y en a plein qui pensent que c'est juste les bourses et à la limite peut-être le les logement. Sauf qu'en fait c'est beaucoup plus de ça, il y a un volet culturel, il y a un volet international, il y a toute la restauration universitaire et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'on y arrive plutôt bien. Preuve en est que bah, déjà, on se fait lire de manière assez majoritaire. Ouais. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et puis, là encore, je vais parler d'Avignon. Parce que... donc, mais à Avignon, on a le plus haut taux de participation étudiante de France aux élections, qui n'est pas énorme parce qu'il n'atteint pas les 30%. Mais la moyenne nationale, elle est à 10-12%, je crois. Ah ouais. Donc ça va.
Ça va, en effet. Tout à l'heure, tu parlais du fameux tour que vous faites pour présenter vos projets. Justement, toi, tu as présenté quoi comme projet pour être élue au CNESER? Est-ce que je l'ai cette fois?
Ouais, bravo.
Ouais.
Alors, la profession de foi, elle est commune. C'est donc pour tout notre groupe, c'est des docs hyper longs. On a ce qu'on appelle une PF courte, pour essayer de résumer ça simplement, mais en fait, c'est un petit livret. Donc on a diffusé ça, après forcément on a tous à titre personnel des combats ouais. particuliers.
Mais du coup tu défends le combat de la phage en général ou voilà. plutôt le tien?
Moi je défends le combat de la phage. Okay. En tant qu'élue nationale je suis tenue de défendre le combat de la phage. Bien entendu c'est pas non plus on t'impose ça, tu fais ça et tout ça. On a des discussions, on y réfléchit en amont. Et on échange avec nos élus sur le niveau local, mais c'est pas mon combat personnel. D'ailleurs, c'est une période aussi où bah, je sais que je vais pas m'affilier à des partis politiques ou à des choses comme ça, parce que là, je représente l'image de la phage okay. et pas la mienne propre. Ce qui m'empêche pas d'avoir mes idées, bien entendu. Et donc, justement, le fait d'avoir ces idées perso et d'avoir des combats perso, ça permet par contre d'apporter à la phage et qui est ouverte en termes de suggestions. Et bah, par exemple, là, dans la profession de foi, on a fait donc, des petits focus par personne sur certains sujets. Moi, j'ai fait un focus sur l'individualisation des parcours et la prise en compte de la diversité, des publics, etc. Donc, c'était une jolie manière de faire passer mon côté égalité-tolérance que j'aime bien. Et puis, dans la profession de foi, on avait notamment de demander la création d'une commission de lutte contre les discriminations. Et moi, j'ai clairement dit à l'équipe que c'était ça qui m'intéressait particulièrement et que c'est aussi certainement sur ça que je serai la meilleure, puisque c'est ce que je maîtrise le mieux.
Ok. Y a Mickaël sur le chat qui demande comment ça se passe la création d'événements de sensibilisation. Donc je pense qu'on peut revenir un peu en arrière sur la fameuse semaine de l'égalité. Comment ça s'est passé pour toi ? C'est-à-dire que tu as présenté ça à ton association et tu leur as dit « Ok, voilà le projet, je veux faire une semaine, voilà comment ça va se dérouler, voilà qui je veux inviter, avec qui je veux être partenaire. » Est-ce que il y a...
Alors, la semaine de l'égalité, c'était pas du tout conventionnel, la manière dont ça s'est fait. Mon amie, bah justement, qui est actuelle vice-présidente étudiante, elle disait dans tous ses discours là, à la semaine de l'égalité, elle disait « Oui, on est certainement allé boire un verre. » Puis elle m'a dit « Ce serait cool qu'on fasse un truc comme ça. » Et puis 6 mois plus tard, ça s'est fait. Donc globalement, c'était ça. Alors là, oui, c'était un projet qui me tenait assez à cœur, donc que j'avais déjà un peu bossé avant de le présenter à la FEDE. Et j'ai été assez seule sur le montage du projet. Je m'en suis vraiment occupée quasiment toute seule. Et donc du coup, ce qui m'a permis d'avoir aussi la liberté, et parce qu'on était dans une relation de confiance avec la FEDE, d'avoir la liberté de dire, bah voilà, moi je veux faire venir un tel, et de me faire plaisir là-dessus. Les actions de sensibilisation, ça dépend vachement de ce que tu veux faire, de quel thème, quel partenaire, sous quelle forme. Donc ça dépend de ouf. Ça peut être, enfin c'est pas forcément des grosses semaines comme ça. C'est vraiment pas nécessaire de s'imposer de faire des grosses semaines comme ça. Toujours, on peut passer par des trucs plus petits et très efficaces aussi. Mais en soi, les FEDE sont aussi là. Bon, moi j'avais déjà un peu d'expérience associative, mais quand on connaît pas bien, je m'adresse à ceux du chat qui peut-être voudraient se lancer dans quelque chose, quand on connaît pas bien comment monter un événement, ou même qu'on n'est pas juste sûr de soi pour le faire, parce qu'on connaît pas forcément tout.
Parce qu'on a notre syndrome de l'imposteur aussi.
Parce qu'on a aussi soi-même son syndrome de l'imposteur. Déjà, trouver des amis.
Entourez-vous.
Et puis ensuite, bah, y a des FEDE, il y a des assos qui sont... généralement dans l'idéal là pour accompagner sur ces projets. Y a des élus étudiants aussi qui connaissent bien le fonctionnement pour les financements, pour les partenariats, etc. Les vice-présidents étudiants qui sont aussi là pour ça. Donc vraiment, faut pas hésiter à s'entourer. Et il y a même souvent dans les universités et les écoles des personnes qui font partie du personnel qui sont chargées de tous ces volets-là et donc qui peuvent aussi filer un coup de main là-dessus.
Merci beaucoup Mathilde.
De rien.
Le chat, il y a quelqu'un sur le chat, Mathilde dit, une autre Mathilde dit, Mathilde est badass de ouf. Voilà,
si ça peut un peu... C'est le prénom.
Si ça peut un peu aider ton syndrome de l'imposteur à s'en aller, hein, parce que moi je te trouve extrêmement intéressante et je pense que tu es extrêmement capable de faire plein de choses. J'ai hâte de continuer à suivre ce que tu vas faire. Je pense que malheureusement, il est l'heure de nous quitter. C'est l'heure de sonner le glas de ce 21e épisode de C'est ça qu'on aime. Merci à vous deux d'avoir fait le déplacement et d'avoir participé à cette émission. Je suis très heureuse de vous avoir eu autour de la table. Merci à vous, derrière votre écran, de nous avoir suivis ou derrière votre casque, je ne sais pas. Je rappelle encore une fois que vous pouvez vous abonner au podcast de Mademoiselle pour écouter nos émissions et nos interviews partout où vous voulez, parce que vous pouvez les télécharger, c'est magnifique le podcast, c'est hyper cool, c'est sympa, c'est classe. Et vous pouvez aussi, si vous êtes un chat, nous mettre une petite note et un avis sur iTunes, parce que ça fera parler de nous, comme ça, on sera un peu plus connus, et les gens ils nous aimeront un peu bien, et voilà. N'hésitez pas à prêcher la bonne parole autour de vous, hein, envoyez ce podcast à vos amis. Et sur ce, moi je vous dis à mardi prochain, le 18 juillet, pour l'émission, qui passe en mode libre antenne de l'été. Donc voilà, si vous avez des questions à poser à Navi et SML, n'hésitez pas à leur envoyer un message sur leur page Facebook l'émission, simplement. Vous tapez l'émission, vous allez les trouver. Et vous leur envoyez un message et puis peut-être qu'on discutera ensemble mardi prochain, donc le 18 juillet à 21h. D'ici là, on va se quitter en musique et moi, je vous fais des bisous. Et encore merci les filles d'être venues.
Merci. Ciao. Ciao.
Et je suis pas du tout prête. Voilà, je suis prête. Thank you.
a time when I spoke to death, but I was death before. My ship is in a parade, just taking over. I said one just for the gun, said two for the eyes, said three and start shooting over. But this is about a day when I spoke with death, but you were death before. They keep singing over. This is wow, 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 wow. I'm just feeling alright. This is wow, 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 wow. I'm just feeling alright. Finally I understood that the parade is my head, the key to the garden are only my thoughts. I said one just for the gun, said two for the eyes, said three and start shooting over. This is about a day when I spoke with me, but I've already spoke, still killing over. This is wow, 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 wow. I'm just feeling all up. This is wow, 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 wow. I'm just feeling all up.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.